las conferències de Radio Languedoc. Faire florir les llengües i les escritures, aquí la temàtica prepausada per lo CIRDOC, Mediateca Occitana a Béziers, per festejar la Sant Jordi 2014. Convidèrem Michel Bourret, de l'Universitat de Perpinyà, per presentar la Sant Jordi, legenda medieval, que s'endevenguet la Jornada Mundial del Llibre. Aquel registrament fuguet realitzat el 26 d'abril de 2014 al CIRDOC de Béziers. N'avez aquí la primera partida.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons commencer ce petit panorama de la fête de la Sant Jordi et de son rapport avec la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Sur la première page de ce PowerPoint, vous allez voir deux photographies qui me semblent emblématiques. La première photographie, en fait, est une photographie des fêtes de Mont-Blanc, la ville où est née la légende de Sant Jordi. Nous en parlerons. Ce qui est intéressant, c'est de voir deux jeunes gens en tenue du chevalier, Saint-Georges, de la jeune fille, de la princesse, avec devant eux un drapeau qu'on appelle une estelada, c'est le drapeau catalan. Le drapeau catalan, c'est la seniera, c'est-à-dire c'est un drapeau à l'origine, c'est le comte Guifré el Pilós qui, blessé à mort, trempe sa main dans le sang et inscrit avec ses quatre doigts, créant l'écu, les quatre barres catalanes. Il s'y adjoint sur fond bleu une étoile. L'estelada, c'est le drapeau indépendantiste. Dessous, vous voyez la signature, l'Assemblea, Assemblea.cat, Assemblea Nationale Catalana. C'est un organe qui n'est pas politique. Pour y entrer, il faut, prouver que l'on est membre ni d'un parti politique ni d'un syndicat. Et je suis membre collaborateur de l'Assemblea Nationale Catalana. Donc cela peut enlever de l'objectivité à ma présentation. Je préfère vous le dire tout de suite. Voici ce que sera le plan de cette intervention assez inégale. Je vous parlerai très brièvement de la légende de Sant Jordi. Je ne suis pas un hagiographe, je ne suis pas spécialiste de la vie des saints, et donc je serai bien en peine de vous en parler. Par contre, je vous parlerai davantage de l'enracinement de ce mythe comme fondateur de la catalanité, également de la spécificité de la naissance de la journée du livre jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Tout cela lié à la fois au pays catalan, et pas uniquement à Barcelone, mais également, je dirais, à tous les pays membres de l'UNESCO, puisque depuis 1995, la journée internationale du livre et du droit d'auteur, on oublie cela souvent, est en fait fêtée dans tous les pays membres de l'UNESCO, avec une particularité à Cuba, puisque c'est el día del idioma, c'est-à-dire la journée de la langue, chose qui est particulièrement importante. Vous voyez donc un grand déséquilibre entre ces deux parties, déséquilibre que je vais tenter de justifier. De Georges à Jordi. En fait, quand on voit avec un tableau d'Uccello et une photographie des fêtes de Mont-Blanc, eh bien cette légende de la Saint-Jordi, il faut déjà se poser la question de Saint-Georges. En fait, il y a deux Saint-Georges, il y en a plusieurs, mais il y a deux Saint-Georges que l'on a tendance à confondre. Saint-Georges de Palestine et Saint-Georges de Cappadoce. En fait, le Saint-Georges originel, pour notre mythe, pour notre légende, c'est le Saint-Georges de Palestine. C'était un militaire romain, un militaire à cheval, nous verrons que le détail est important, qui s'est converti au christianisme. Et à partir de ce mythe, dont la véracité historique est quand même mise en question, va se développer au Moyen-Âge dans toute l'Europe, un mythe fondateur, celui de Saint-Georges, qui va être aussi bien mythe fondateur, par exemple, en Angleterre qu'en Catalogne. Alors, ce qui est étonnant, c'est de se dire, voilà, on a un militaire du 3e siècle après Jésus-Christ. Le temps passe et nous arrivons, en fait, à l'écriture du mythe. J'ai commencé par vous dire que, je n'étais pas un hagiographe. Et le plus grand hagiographe au Moyen-Âge, évidemment, c'est Jacques de Voragine avec sa légende dorée. Et on peut dire que quand on fait référence aux saints, on ne fait pas référence aux saints tels qu'ils ont vécu, mais tels qu'ils ont été édifiés par Voragine. C'est un petit peu comme pendant longtemps, la religion catholique s'est fondée non sur la Bible originelle, mais sur la traduction en latin, la Vulgate, par Saint Jérôme. Et en fait, ce n'était pas, c'était un rapport à ce latin. Et d'ailleurs, on pourrait gloser énormément sur la différence, par exemple, entre le logos grec et le verbum latin, ne serait-ce que du point de vue de l'incarnation. Alors, nous arrivons finalement, nous partons d'un mythe qui est, je dirais, avant le Moyen-Âge, le 3e siècle, on est dans la fin de la latinité. Hein, le Moyen-Âge commence officiellement en 476. Et puis on arrive à nos fêtes de Saint-Jean, et surtout un mythe oriental, un mythe qui naît dans la Palestine et qui va être relocalisé en Catalogne. Il va être relocalisé à Montblanc. Je vous parle un petit peu de Montblanc. Montblanc, c'est une ville de la Conca de Barbera, c'est-à-dire une ville de la Tarragonaise, une ville qui a une importance considérable au Moyen-Âge. C'est une des 5 grandes villes de la Catalogne, au Moyen-Âge, ce qu'elle n'est plus maintenant. Mais c'est surtout une ville dans laquelle se tiennent les parlements catalans. Les Corts Catalanes. Alors là, comme je vous ai dit en préambule, attention, je suis membre collaborateur de l'Assemblée nationale de Catalogne ou catalana, comme vous voulez. Je voulais commencer en parlant catalan, je finirai en catalan, comme si vous aurez un petit peu de catalan. Mais c'est, comment vous dire, actuellement, il y a un débat considérable en Espagne à propos de la demande qui émane des Catalans de se prononcer sur un État possible. Et on dit oui, mais la Catalogne n'est qu'une création. La Catalogne est bien antérieure à l'Espagne. Et même, je dirais que dans l'Europe, la Catalogne est un des premiers, un des pionniers d'une forme de démocratie. C'est un anachronisme avec ces parlements qui sont ces parlements médiévaux. Donc rien d'étonnant que cela naisse dans une des villes de poids de la Catalogne. Alors, quelle est cette légende? Alors la légende, et nous allons essayer de la décrypter rapidement, je ne suis pas psychanalyste, je donnerai quelques éléments qui pourront être analysés ultérieurement par vous, si vous vous reportez sur différents documents. La légende veut que chaque année, à Montblanc, eh bien, il y avait un dragon terrible, sanguinaire, qui vivait dans une grotte et qui exigeait un tribut par an. On donnait, en est après année, une personne. Vint le tour de la princesse. La ville allait perdre sa princesse. Au moment où elle allait être dévorée par le dragon, surgit un chevalier blanc, pour reprendre une expression bien française, un chevalier blanc qui descend de son cheval et qui tranche là où les têtes de l'animal qui meurt. Le sang jaillit, en tombant sur le sol, il fait naître instantanément un buisson de roses. Le chevalier coupe la rose, une des roses, et l'offre à ce qui devient sa promise, en fait. Alors, si l'on décrypte cela, très rapidement, je vous dis, je ne suis pas psychanalyste, nous avons une ville qui est enchaînée à ces vieux démons, parce que c'est la lecture chrétienne, je dirais, plus particulièrement la lecture catholique. Elle est enchaînée à ses vieilles traditions, à son paganisme. À la fois, elle est victime et complice du bourreau. Donc, il faut un élément extérieur. Cet élément extérieur, ce représentant de la chrétienté, c'est un chevalier, c'est un militaire à cheval, donc dans les ordres de la société, c'est un ordre prééminent, et qui va, comment dire, briser le cercle infernal et donner l'occasion à une nouvelle génération. Parce qu'on peut supposer qu'effectivement il va s'unir à la princesse et qu'une lignée va naître. Le dragon est dans la grotte, les forces telluriques, l'ancienneté, l'enracinement, et lui, il est l'élément novateur. Cet élément novateur est à rapprocher de l'étymologie de Georges en grec. Georges, c'est le paysan. Alors c'est très étonnant parce que un chevalier, c'est en fait un aristocrate. Mais cet aristocrate est paysan. Et il va faire naître, je dirais, la vie d'une fleur, de quelque chose qui est véritablement une rose. Il n'y a rien de moins naturel. C'est quelque chose qui, depuis la nuit des temps, est cultivé. Et donc, c'est déjà un élément de la spécificité catalane. C'est-à-dire par rapport à l'obsession, je dirais, à l'obsession castillane pour la pureté de sang, l'hidalguie, c'est-à-dire la noblesse, qui allait jusque dans les sens les plus étonnants. Il faut savoir que, par exemple, quand un homme avait 7 enfants mâles, il était anobli, il devenait, pardon l'expression, c'est l'expression qu'on employait à l'époque, hidalgo de Bragueta. Donc, les Castillans, cette obsession de la noblesse, et face à l'aristocratie, les Catalans vont faire une sorte de noblesse, vont ennoblir le travail. Donc cet élément est déjà important, que cela vienne d'un paysan. Autre chose, c'est l'union avec une jeune fille et une lignée qui va être une lignée unique. Un des éléments de la... peut-être dans l'histoire de la Catalogne, c'est le principe de l'hereu. L'hereu, c'est le premier fils mâle. Effectivement, un des éléments qui va jouer sur la démographie catalane, c'est que les Catalans ont peu d'enfants et ils ne morcellent pas les terres. Donc on a à la fois une population industrieuse et une population qui se contraint au malthusianisme. Ces éléments sont déjà en germe dans le mythe de Sant Jordi. Alors, du mythe de Sant Jordi à notre Sant Jordi actuel. Alors là, nous avons une première question, c'est la rose. Alors comment en vient-on, passe-t-on de la rose au livre ? Eh bien, parce que la Sant Jordi, ça va devenir une festivité catalane. Et ce n'est pas quelque chose qui vient tardivement. Les Corses de Catalogne se prononcent dès 1456. Donc c'est une fête qui est particulièrement enracinée. Et chose étonnante, c'est qu'au même moment, à la fois, Sant Jordi est institué comme saint patron de la Catalogne et la Sant Jordi devient El Dia dels Enamorats, le jour des amoureux, en fait. Donc, on a quelque chose qui est assez surprenant parce que nous savons dans l'histoire de la pensée, notamment de la pensée occidentale, il n'est que de songer à des travaux comme ceux de Bataille, par exemple, ou de Deleuze, ou de Foucault, également que l'État, en général, va lutter contre l'amour, parce que l'amour est une force déstabilisatrice, et donc l'amour ne fait pas de bons citoyens. Eh bien non, la Catalogne fait le contraire. C'est-à-dire que l'amour est institué dès le départ. Alors attention, il s'agit d'un amour extrêmement encadré, d'un amour catholique. Donc on est, dès le XVe siècle, dans l'institution de la Sant Jordi, et dans son lien avec l'amour. 1456. Donc on est en fin de Moyen-Âge. Hein. Grosso modo, alors, la fin du Moyen-Âge, est-ce que c'est la chute de Constantinople en 1453, l'invention de l'imprimerie vers 1470, ou la découverte de l'Amérique, l'expulsion des Juifs, etc., de 1492. Peu importe, on est dans un Moyen-Âge finissant. Et on est dans quelque chose qui va se mettre en place et auquel les Catalans vont se lier très précisément, même dans les années de plomb. Alors, ça m'amène à parler un petit peu, j'oublie mes papiers, mais finalement c'est une très très bonne chose d'oublier ces papiers, parce qu'on s'aperçoit que même dans les les deux périodes de plomb, si l'on peut dire, ça va rester un point d'ancrage fondamental. La première période de plomb, c'est celle que nous que l'on célèbre cette année, 2014, c'est le 300e anniversaire de la chute de Barcelone en 1714, c'est-à-dire le triomphe des troupes castillanes et la dynastie des Bourbons. Et la deuxième période noire dont je parlerai sont les années de plomb qui correspondent à la dictature franquiste. Et dans ces deux cas, il va y avoir un enracinement du culte populaire de Sant Jordi. C'est étonnant. C'est particulièrement étonnant et c'est quelque chose qui perdure. Il y a une chose qui étonne les gens, c'est que la Catalogne perd en 1714. L'Espagne fait ce qu'on appelle, impose les decretos de Nueva Planta qui vont imposer l'usage du castillan, interdire l'usage du catalan dans l'enseignement, l'église, le rapport public, etc. Et les Catalans, vaincus, se remettent immédiatement au travail. Le travail, alors dans l'imaginaire castillan, là aussi prenez tout cela avec des pincettes, hein. Dans l'imaginaire castillan, le catalan est travailleur, avare et peureux. Je dédie cette conférence à mon ami l'écrivain catalan Jaume Benavente. Jaume Benavente a commencé par écrire en castillan. Il est allé faire son service militaire à Madrid et là on l'a considéré comme le peureux de service. Il a tout lâché. Et de poète castillan, il est passé à romancier, d'abord à poète, puis romancier catalan. Ce pourquoi, puisqu'il avait été enseigné sous le franquisme, il a dû aller à l'école, Escola Oficial d'Idiomas, apprendre sa propre langue, dont il ne connaissait qu'un usage, dont il n'avait qu'un usage familial, sans base morphosyntaxique, lexicographique. C'était une petite digression, mais en tout cas cet élément de permanence est important. Alors j'ai sur ce, c'est assez confus, l'association Sant Jordi, ça se voit mieux sur le PDF, mais qui sera sur le site, et j'ai mis deux symboles. Alors un symbole, ce jeune homme est né en 1974, il s'agit de Jordi Cruyff. Alors, Jordi Cruyff est le fils du fameux footballeur, capitaine de l'Ajax d'Amsterdam, qui est passé à Barcelone et qui a constitué la révolution footballistique, dont Barcelone tire encore les fruits maintenant, en 1973-74, avec le fameux, je crois que c'était en 73, le fameux 5-0 à Madrid, imaginez, devant le ministre de Gobernación, c'est-à-dire le ministre franquiste de la censure, etc. Ça avait été un premier camouflé. Cruyff ne fait pas comme font actuellement la plupart des footballeurs, des entraîneurs. Il décide de s'installer à Barcelone, de se catalaniser. Il a un fils et il l'appelle Jordi. Jordi, c'est le saint patron de la Catalogne. Beaucoup de Catalans s'appellent Jordi s'ils sont garçons et Montse s'ils sont filles. Montse, c'est la Murenette, la Vierge Noire de Montserrat, l'abbaye de Montserrat. Oh, il y a une petite exception qui me tient à cœur. C'est pour les Catalans qui ont été enfermés dans les camps de concentration, notamment Mauthausen, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui s'étaient fait la promesse, s'ils en réchappaient et s'ils avaient des enfants, d'appeler leur fille Libertat et leur fils Libert. Et j'ai connu quelqu'un qui a une grande importance entre la France et la Catalogne et qui s'appelle Libert et qui est né en 1947. Donc là, c'est peut-être la petite entorse, mais donc c'est déjà un premier symbole. Et là, qui montre aussi la volonté internationale de la Catalogne. On dit souvent d'ailleurs de Barcelone, parce que je parle de la Catalogne et Barcelone, il y a un concept qui est celui de la Catalunya ciutat, la Catalogne ville, parce qu'effectivement, pour la plupart des gens, la Catalogne, c'est Barcelone. Et il y a une formule, qui est une formule anglo-saxonne, qui dit Barcelone, longitude de Paris, latitude de New York. Tout est dit, hein, si vous voulez. Donc, et le deuxième élément, eh bien, c'est le Palau Sant Jordi. C'est un des édifices sportifs construits pour les Jeux Olympiques de 1992. Alors, ça va m'amener à parler en deuxième partie, de ce Dia del Libro. Parce que justement, si je vous parle des Jeux Olympiques de 1992, ce n'est pas un hasard. Donc la Catalogne se trouve minorée, mise sous le joug en 1714. Elle veut exister et peu à peu va se mettre en place une sorte d'Espagne bicéphale avec la capitale, Madrid. Madrid, il faut savoir, Madrid est une ville très très récente. D'ailleurs, Barcelone est ciudad en espagnol. Madrid est Villa. Madrid n'a pas le privilège de cité. Pour cause, elle n'existait pas. C'était un simple hameau, un village au Moyen-Âge. Elle a été choisie par Philippe II parce que c'est le barycentre des Espagnes. C'est le centre. Vous savez, un peu comme en Espagne, à Madrid, chaque Noche Vieja, le 31 décembre, sur les coups de minuit, on mange les 12 graines de raisin à la Puerta del Sol, parce que la Puerta del Sol, c'est le barycentre, si vous voulez. Toutes les calculs kilométriques sous Franco se faisaient à partir de la Puerta del Sol. Après, dans la démocratie, chaque communauté autonome a fait fin. Je n'entre pas dans ces éléments. Pourquoi je vous ai parlé des Jeux Olympiques de 1992 ? Eh bien, quand la Catalogne a décidé finalement d'échapper un petit peu à cette tutelle, elle l'a fait par la voie internationale. Alors le premier élément, bien, ce sont les expositions universelles. C'est créé à Londres en 1851 et Barcelone rentre là-dedans. Enfin, la bourgeoisie éclairée rentre là-dedans. C'est la fameuse exposition universelle de 1888 dont vous voyez de beaux vestiges avec le parc de la Citadelle et la terrible statue de Colomb dans laquelle de malheureux touristes allemands ont été bloqués au printemps 2013. Et pour les déloger, il a fallu des hélicoptères, tailler les verres, enfin, et happer ces pauvres gens. Avec, vous imaginez, enfin, moi, je qui ai un vertige terrible, ça serait épouvantable.
Las conferencias de Radio Languedoc.
1888. 1929, exposition internationale. Alors, la différence entre universel et international, c'est du chipotage, mais bon. 1952, là on est sous le franquisme, Congreso Eucarístico Internacional. Donc le congrès, en fait, de l'épiscopat, le congrès de l'échelon international. 1955, les Jeux méditerranéens. 1992, les Jeux olympiques. Effectivement, avec un président du comité olympique international, Juan Antonio Samaranch, nous verrons l'importance des gens, hein, qui est en fait un Barcelonais, mais qui essaie de se faire une virginité, parce que c'est un phalangiste qui avait été, il a joué un peu surtout, qui avait été ambassadeur d'Espagne en Russie, donc il va donner les Jeux Olympiques à Barcelone. Et le dernier élément à ce jour, c'est 2004, ça c'est un échec total, le Forum des Cultures. Donc la Catalogne essaie de trouver, je dirais, son indépendance, son lustre du côté international. Cet élément est important parce qu'il va nous permettre de comprendre ce qu'est la journée du livre, d'un événement qui va être un événement, je dirais, relativement local, jusqu'à un événement international, universel. C'est une réalité très, très récente. Vous voyez, je vous ai mis la date de 1925. J'aime bien me tromper dans les dates. En fait, la date que j'aurais dû vous mettre, c'est 1926. Évidemment, pour que quelque chose se lance en 1926, il faut y avoir pensé avant. Alors, on pourrait aller très, très en arrière et montrer que le livre a toujours été d'une grande importance en Catalogne. Le livre est l'élément fondamental de la, je dirais, de la Renaissance, c'est le terme catalan, Renaissance, de la Renaissance linguistique, culturelle, mais également entrepreneuriale. Et ça va être, comment dire, lié dès le départ à des prix littéraires. Donc ce jour international du livre, ce jour dans Saint-Jordi, il va falloir le lier à une question qui est celle des prix littéraires. Alors au XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, ce sont les Jeux Floraux, les Jocs Florals, qui vont remotiver quelque chose qui existait au Moyen-Âge. Donc en fait, par l'artifice de concours qui n'attiraient pas les foudres de l'autorité, c'était de la poésie, eh bien la langue revient. la langue s'enracine. On est quand même dans une société, il faut bien se dire, où le général, par exemple, Espartero, quand il y a des troubles à Barcelone, il prend les canons de marine de Montjuïc, il les tourne. Si vous allez encore à Montjuïc, c'est devenu depuis 3 ans, ça appartient à la mairie de Barcelone, vous verrez qu'il y a encore les... Comment dire enfin, on peut les tourner. On peut les tourner. Et donc, on bombardait la ville. Alors, ça tombait ou ça tombait. Hein. Évidemment, et les Barcelonais, quand ils commençaient à recevoir les obus, ils s'arrêtaient. Donc, on a cet enracinement dans le 19e siècle. Et en fait, on va avoir une naissance... en 1926, de la main d'une personne. Alors c'est très intéressant, vous avez un mouvement, mais c'est une personne qui va déclencher ce mouvement. Alors ce mouvement, mais c'est la personne que vous voyez là, c'est Vicent Clavel Andrés, qui est un Valencien établi à Barcelone et qui a proposé à la chambre, on va dire la chambre de commerce du livre de Barcelone, à l'association... Alors, Gremis de Libretes, hein, l'association, la corporation des libraires, de faire une journée. Et alors, c'est très étonnant, cette journée, au départ, n'est pas le 23 avril, et cependant, on va la lier, en fait, à la naissance de l'écrivain espagnol par excellence, de Miguel de Cervantes. Alors, nous sommes en 1926. Alors, en 1926, c'est très intéressant de voir, je fais un petit peu d'histoire, parce que les débuts, notamment en Catalogne, du XXe siècle sont extrêmement tourmentés. Vous allez avoir une opposition de droite et d'extrême droite. On va arriver à un gouvernement autonome aux alentours de 1914-1917, la Mancomunitat. Et puis, en Espagne, il va y avoir la prise du pouvoir par un premier ministre militaire, Miguel Primo de Rivera, en 1923. Et il va y avoir l'instauration de ce qu'on appelait en espagnol la dicta blanda, c'est un mauvais jeu de mots avec dictadura. C'est une sorte de dicta molle, si on peut dire, vous voyez. Enfin, molle n'a qu'un sens. Et, par exemple, la préparation de l'exposition internationale de 1929, commence en 1917, mais elle va être infléchie par la dictature. Par exemple, si vous allez à Montjuïc, si vous allez en bas, à Vinguda de Maria Cristina, là où démarrait il y a peu le marathon de Barcelone, 18 000 candidats, dont la plupart étaient français. Là, vous montez, vous allez avoir la Font Magica, la fontaine magique, qui est une fontaine éclairée, très volée, et vous avez 4 colonnes qui sont le symbole du drapeau catalan. Ces 4 colonnes ont été détruites par Primo de Rivera alors qu'elles étaient édifiées. Et ça a été une des premières choses qui a été, comment dire, reconstruite par l'Espagne, par la Catalogne démocratique. Je crois que c'est dans... Alors, c'est en 1986, donc est-ce qu'on savait déjà... Je ne sais pas. Donc je préfère ne pas vous le dire, mais en tout cas, c'est un symbole. Et on est quand même dans cette Espagne forte. Donc, cette journée du livre, qui est faite par un libraire de Barcelone, ça va être en fait appelé la fiesta ou el día del libro espagnol. En fait, je regarde les termes exacts, le roi Alphonse XIII a signé un décret royal, un real decreto, qui s'appelait la fiesta, l'intitulé c'est la fiesta, pas le dire, la fiesta del libro espagnol. Alors c'est intéressant de voir, on a pour le gouvernement central un symbole d'unité à partir de la langue. Regardez ce que les Cubains feront, hein. Je vous ai parlé del día de l'idioma, mais vous imaginez. Et pour les Catalans, ben c'est une façon de mettre en place un système qui fera florès jusqu'à nos jours. Donc voilà cette mise en place avec une fixation sur le 23 avril qui est assez tardive, assez controversée. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va voir, ben finalement, tout cela va être fait autour de personnes qui meurent la même année. C'est Shakespeare et Cervantes, donc deux des grands auteurs de l'humanité. Alors, on est donc à la fin des années 20. Et alors, je vous ai donné comme exemple, si vous voulez, bon, je vous ai mis Cervantes et Shakespeare. Et là, je vous ai montré, ça ne se voit pas tellement bien, la Diputación Provincial de Málaga, et qui va justement parler El Día del Libro Español, en fait, là, 7 d'octobre de 1926. Hein. Là, au départ, c'est en octobre, en fait. Et donc, cette commémoration, et elle se passe dans toute l'Espagne. En fait, on va voir au cours de la Seconde République espagnole, dans les années 30, ça va se centrer sur la Catalogne. Là, nous entrons véritablement dans le cœur du sujet. Alors, je vous ai mis une photo, non pas de 1932, mais de 1934. La Diada del Libre, amb la llibreria Verdaguer, un des grands poètes catalans, qui se passe donc sur les Ramblas en 1934, tout marqué en catalan, on vend des livres. C'est évidemment un terrible instrument à la fois de propagande et d'éducation. La Catalogne n'a jamais digéré que l'un de ses humbles, un simple instituteur, Francesc Ferrer y Guardia, ait été fusillé à la fin des événements de la semaine tragique de 1909. Lui, il avait créé une école qui fait penser à une école à la Freinet avant l'heure, si vous voulez, une école d'éducation populaire. Parce qu'il faut savoir que la renaissance du catalan au XIXe siècle est le fait des bourgeois, des possédants. Le peuple parle le catalan, mais c'est un catalan qu'il ne peut pas apprendre. Donc il va y avoir une sorte d'école ouvrière qui va se mettre en place au début du XXe siècle. Et donc, les catalans ont cela. Et ils vont commencer, je dirais, une éducation. Alors, bien avant la proclamation de la République espagnole, le 14 avril 1931, il faut savoir que l'État catalan est proclamé quelques heures après, puis on revient en arrière, enfin, tout ça, je passe les détails. Mais en fait, la question de la langue est posée depuis plusieurs années. En 1907 est créé l'Institut d'Estudis Catalans, l'Académie de la langue catalane. Le promoteur de la langue catalane, c'est Pompeu Fabra, un ingénieur agronome qui va d'abord être professeur titulaire de chaire de chimie à l'école d'ingénieurs de Bilbao. Et quand il va revenir, avec tout ce qu'il aura fait pour la langue, il sera professeur titulaire de la première chaire de catalan, langue et littérature, à l'Université autonome de Barcelone, qui est créée dans les années 30. On dit Université autonome de Barcelone, c'est UAB, c'est son état. À l'origine, c'est Université autonome de Catalogne, parce que c'est aussi un autre système d'enseignement. Et donc, dans ces années 30, vont fleurir des grammaires, des dictionnaires, mais très nombreux, c'est merveilleux, et à étudier particulièrement. Et donc, El Día del Libre, et les ventes, là, c'est l'occasion, en fait, de mettre à la portée du peuple ces instruments considérable. Vous savez, la première chose qu'on a en général quand on est catalaniste, c'est l'Alcubemoy. C'est un dictionnaire fait par Moussen Alcubé, un prêtre qui allait de village en village, qui prenait sur des fiches des mots, etc. C'est une œuvre en 10 volumes qui est un état de la langue catalane, des Baléares, du pays valencien, qui est encore utilisée de nos jours. Et c'est en général, quand quelqu'un en Catalogne avait la licence d'enseignement qui lui permettait de devenir professeur, souvent, je pense à un ami d'une famille humble, eh bien ses parents lui ont offert les 10 volumes. Hein. Et c'est toujours la même maison d'édition à Majorque qui fait cela. Donc le livre, évidemment, c'est lié. On est dans un schéma, si vous voulez, de propagande et d'éducation tout au long de ces années 30. Alors là, on a donc un recentrement sur... On est passé de la fiesta del libro español à El Día del Libre Catalán, ou El Día ou la Diada. La Diada, c'est quand c'est une journée, que la Diada, d'ailleurs, sans rien d'autre, c'est le 11 septembre, puisque la Catalogne est avec la Serbie, un des rares pays à avoir pour fête nationale, une défaite. défaites. En général, on a plutôt des victoires. Eux, ils ont une défaite. Je sais qu'il y a d'autres pays, mais en tout cas, Serbie et Catalogne, ça je sais. Alors, eh bien, oui, je suis allé trop vite. J'allais oublier une personne fondamentale. Bentura Gassol. Si vous avez l'occasion de lire des poésies de Bentura Gassol, précipitez-vous. Alors, c'est quelqu'un, c'est un membre de Esquerra Republicana de Catalogne, le parti qui avait été créé par le colonel Francesc Macià, qui avait été, et d'ailleurs Bentura Gassol aussi, exilé en France pour des atteintes à la sûreté de l'État dans les années 20, et qui sera le premier président de la Généralité de Catalogne jusqu'à son décès. Et donc, Bentura Gassol va devenir conseiller de la culture. En Catalogne, un conseiller, c'est un ministre. Et là, véritablement, il va faire beaucoup pour la langue, pour la littérature. C'est toujours une très bonne chose de prendre de merveilleux écrivains pour en faire des ministres. Regardez en France, avec Malraux. Hein. Donc, si vous voulez, le Malraux catalan, c'était Bentura Gassol. Et évidemment, Bentura Gassol, à la fin, il va faire partie de ces centaines de milliers de gens qui ont passé le Pertus lors de la retirada. Donc on est, véritablement, j'ai oublié de vous le dire, on est dans l'ancrage de l'éducation et d'une éducation qui est populaire. Alors nous allons passer aux années de plomb, c'est-à-dire la dictature franquiste qui commence en fait théoriquement le 1er avril 1939, dans les faits le 26 janvier 1939, quand les troupes franquistes entrent à Barcelone. Là, j'aurais pu en prendre d'autres exemples, j'ai pris l'AUCA del Dia del Libro, parce que ça me paraissait très symptomatique. Évidemment, qui dit publication, mise à disposition du public sous la dictature franquiste, dit forcément Castilla. Mais ce qui est pris comme modèle, c'est une AUCA. En fait, des images d'Épinal. On traduirait ça en français, AUCA par image d'Épinal. C'est-à-dire, on prend un modèle, un patron catalan, et on le met en castillan. Ah, vous voyez ce que c'est, El Día del Libro, Gremios Sindicales de Libreros y Editores de Barcelona. On est en 1956. Alors, j'ai pris ça, pas par hasard, parce que il y a quelques minutes, on me parlait de la venue à Paris de Juan Goytisolo. Et donc, ces années-là se mettent en place, justement, je pense à Juan Goytisolo, je dirais une rénovation de la poésie, mais surtout de la prose espagnole en castillan et de la prose catalane. C'est en fait la deuxième phase du franquisme qui se met en place, et au sein même d'une nation sous les ténoirs, eh bien, des germes de liberté vont naître. Alors ces germes de liberté, je ne vais pas en parler très très longuement, mais ils sont importants et ils sont alliés à la Sant Jordi. Le premier élément, eh bien, c'est simple, c'est l'abbaye de Montserrat. L'abbaye de Montserrat, qui a un privilège d'extraterritorialité. La police ne peut y entrer. Et dès le départ, les abbés de l'abbaye de Montserrat, les abbés sont des opposants. Ils sont des opposants, ils recueillent les opposants, ils les protègent, mais surtout, leur rotative marche. Et ils fondent une revue d'une extrême qualité, qui existe encore, d'une revue de qualité, qui s'appelle Serra d'Or, donc la montagne dorée, la montagne de Montserrat, et qui va être dans l'Espagne, enfin je ne dis pas la Catalogne, dans l'Espagne franquiste, un poumon de liberté. Alors évidemment, c'est imprimé à Montserrat, le problème c'est après pour être diffusé, mais la diffusion se fait. Et c'est là que le bouillonnement intellectuel se fait, et du point de vue de la création littéraire, il va y avoir toute une influence d'une jeunesse qui est une jeunesse dorée, en général de possédants, souvent qui vont naître dans les courants même du syndicat étudiant universitaire, du syndicat phalangiste, pour mieux s'en distancer, et qui vont être volontiers marxistes. Je vous avais parlé des prix littéraires tout à l'heure, de ces prix littéraires du 19e siècle. À la fin de la guerre civile, l'Espagne est exsangue. Elle est exsangue en hommes, mais elle est exsangue aussi économiquement. Or, les livres, c'est du papier, de l'encre, du carton. Il faut relancer, et on va relancer par les prix littéraires. Ces prix littéraires, ils sont barcelonais. Car en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que sous la dictature franquiste, Barcelone, la cité ONI, va devenir la capitale éditoriale. Alors le premier de ces prix est de 1900. Alors c'est là aussi, je vous parlais de ces dates, 44 ou 45, selon. Il est donné au tout début 1945, il est donné le 6 janvier 1945, le jour de l'épiphanie. Il est donné à une romancière de 21 ans, Carmen Laforet, Nada. Et Nada, c'est un des plus, à mon sens, je suis professeur de littérature, c'est un des plus beaux romans en langue espagnole de du XXe siècle. C'est une écriture pure, vraiment, c'est un roman qu'on ne cesse de... En tout cas, comme enseignant, avec Ultima Stares Contaresa de Juan Marcet, quand j'étais enseignant de littérature espagnole, ce sont mes deux grands succès. C'est-à-dire que les étudiants ont aimé, quand j'ai donné d'autres œuvres qui étaient pourtant de belles œuvres, n'ont pas eu ce succès. Mais Nada et Ultima Stares Contaresa ont eu du succès. Donc 1944-45, c'est 1945, mais c'est le prix, il s'appelle 1944, prix Nadal, qui est l'équivalent du Goncourt. 1952, création d'un prix, alors ça c'est maison d'édition Destino à Barcelone. 1952, maison d'édition Planeta, c'est le prix Planeta. Au début, personne n'en veut, etc. Puis le prix Planeta, c'est le prix espagnol, 1952. Et surtout, on arrive à 1959-1960, la maison d'édition Seix Barral crée le prix Biblioteca Breve et le prix Formentor. Je m'arrête un instant. Dans les grands écrivains catalans, alors ça c'est tout un débat, car il y a des écrivains catalans, à mon sens, qui écrivent en castillan. Il y a ce qu'on appelle la Escuela Poética de Barcelona, avec trois grands poètes, que sont Jaime Gil de Biedma, à mon sens le plus grand, Carlos Barral et José Agustín Goytisolo, le frère de Juan Goytisolo. Un petit, encore une digression, c'est mon mal... Pour comprendre la trajectoire des frères Goytisolo, il faut imaginer des fils de la bourgeoisie, avec une maman belle comme le jour. Les enfants sont derrière le carreau. Ils voient maman descendre acheter des cadeaux. Ils attendent des cadeaux. Une bombe explose et leur mère meurt. Une bombe italienne. Vous comprenez après pourquoi toute leur carrière a été marquée. Carrière des frères et carrière du cousin Luis Goytisolo. Donc, je reviens à cela. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Carlos Barral va se marier avec la fille de Víctor Seix. Víctor Seix est un éditeur catalan spécialisé dans les livres de comptabilité. Le livre de comptabilité, c'est pas très sexy, mais ça vend bien, parce que la comptabilité, c'est le plus vieux métier du monde. On m'a dit un jour, mais le plus vieux métier du monde, c'est les prostituées. Je dis non, la prostituée a besoin d'un comptable. Donc, le plus vieux métier du monde, c'est comptable. Et Carlos Barral, qui est un homme qui porte beau et tout, eh bien, hop, pique la maison d'édition à son beau-père et crée Seix Barral. Seix Barral est à la littérature espagnole, je dis bien espagnole, du monde hispanophone, ce que les éditions de minuit sont à la littérature française. Et si je vous parle de ça, ce n'est pas pour vous parler de littérature catalane ou espagnole, c'est pour vous parler de ce qui, à mon sens, définit la littérature de la deuxième moitié, universelle la deuxième moitié du XXe siècle, et dont malheureusement on vient de beaucoup parler, dernièrement avec le décès de Gabriel García Márquez, c'est la littérature latino-américaine. Le boom, puisqu'on l'appelle ainsi, le boom latino-américain, est un boom barcelonais. Et j'insiste, barcelonais. C'est Seix Barral qui l'est. Tous ces gens vont à Barcelone. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cortázar, tous sont passés par Barcelone. Et il suffit de lire, par exemple, Los Doce Cuentos Peregrinos, Gabriel García Márquez, pour voir toute l'influence que la vie catalane, barcelonaise, cadaqués, etc., peut avoir. Donc, alors, on s'est éloigné en apparence du jour du livre. On ne s'est pas éloigné du tout. Parce que sous le franquisme, Barcelone devient capitale du monde éditorial hispanophone. Quel retournement! Quand on voit que bien des intellectuels catalans et espagnols avaient pris le chemin de l'exil en 1939 et étaient allés éditer où? À la librairie espagnole? En France, c'est le cas de Goytisolo. Étaient allés au Mexique, même Juan Marcet, en 1973, Cidicen Cacay. Étaient allés à Buenos Aires, Losada. Il faut savoir que les Espagnols ont connu les poésies de García Lorca par les les petits volumes sur un mauvais papier qui passaient clandestinement. Donc, et là, on a donc une espèce de tournemain, et Barcelone récupère les marrons et devient la capitale éditoriale de l'Espagne. Et tout cela se passe pendant les années de plomb, ces années de silence. C'est très, très surprenant. D'ailleurs, ça peut paraître étonnant. On aurait pu penser que je n'en parlerais pas des dictatures franquistes et j'aurais consacré l'essentiel du temps.
À quoi sert la première partie de la conférence donnée par Michel Bourret, universitaire de Perpignan, après pause de la Sant Jordi, légende médiévale qui s'en devenait journée mondiale del libre. À quel enregistrement fut réalisé en avril de 2014 per la Sant Jordi a Béziers.